Les matins de France Culture, 7h-9h, Guillaume Erner.
Le gouvernement doit dévoiler aujourd'hui les mesures de sa nouvelle politique migratoire. Au programme de ses annonces, l'instauration de quotas pour l'immigration économique. Assiste-t-on à un changement de cap dans l'accueil des immigrés en France? Pour en parler, je suis en compagnie du démographe Hervé Lebras. Bonjour, vous êtes auteur de nombreux ouvrages sur l'immigration et plus récemment d'une note sur la question destinée à la Fondation Jean Jaurès. Hervé Lebras, j'aimerais tout d'abord qu'on fasse de la terminologie. Le terme de quota, il va y avoir donc des quotas pour différentes professions. Est-ce que le terme est bien choisi?
Non, d'habitude le terme de quota désigne une limite à ne pas dépasser. C'était par exemple le cas pour les étudiants en médecine à une époque. Là, c'est pas du tout ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est qu'on va autoriser dans certaines régions et dans certains métiers l'engagement de travailleurs immigrés ou plus exactement étrangers sans passer par la formalité habituelle qui consiste à montrer qu'il n'y a pas de travailleurs français qui puissent prendre le poste qui est mis, qui est ouvert. Et ça se produit, mais ce problème se pose dans un certain nombre de métiers. C'est une mesure que déjà Sarkozy avait instaurée, qui avait ensuite été retirée par Hollande. Donc on revient en arrière. C'est une affaire de réglementation pour faciliter l'embauche. C'est au fond le contraire d'un quota au sens propre du terme, puisque c'est au contraire pour augmenter une immigration de travail dont on a besoin, qui est faible en France. C'est simplement 33 000 personnes l'année dernière sur 260 000 cartes de séjour. Donc je pense que Macron est coincé entre, au fond, Sarkozy et Hollande, si on peut dire.
Parce que c'est assez étonnant, si on suit votre raisonnement, Hervé Lebras, pourquoi François Hollande avait-il décidé, dans ces conditions, de supprimer cette mesure alors qu'elle fléchait certains emplois?
Je pense parce qu'il considérait que c'était une mesure de type libéral. Je pense aussi que, comme presque toutes les mesures qui concernent l'immigration, c'est une attitude politique qui était, c'était montrer qu'il n'était pas du tout dans la ligne Sarkozy sur la migration, et donc c'était un geste. Et hélas, je dois dire que cette mesure, qui est une mesure sans doute bénéfique pour l'économie française, à petite dose, est un geste, parce que en plus de cela, il faut dire que le problème, c'est on a beau mettre ouvrir des postes aux étrangers, il n'est pas du tout sûr qu'ils viennent. On a des expériences de ce genre-là. Par exemple, il y a presque 10 ans, l'Allemagne avait ouvert 15 000 postes d'informaticiens, et les Allemands étaient persuadés que les Indiens allaient se précipiter.
Alors qu'est-ce qui s'est passé?
Presque aucun Indien n'est venu. Ils ont préféré rester dans la chaleur de Bangalore, qui est un pays assez agréable. Et quand on est informaticien en Inde, vu le niveau de vie, on a une vie agréable. Donc les postes sont restés, n'ont pas été remplis. Ils ont été ensuite remplis par, au fond, une immigration qui venait de l'Est, où là, il y avait une demande. Donc il faut bien voir que plus on monte dans la spécialisation, plus les candidats regardent bien où il est le mieux de s'installer. Certains trouvent qu'il vaut mieux aller au Canada ou aux États-Unis.
Alors, on pourrait être taquin, mais ni vous ni moi ne le sommes, Hervé Lebras. Rappelez les propos d'Emmanuel Macron qui expliquait pendant la campagne qu'il n'y aurait pas de quotas. Il met des quotas, mais en fait, le terme est là, si je vous suis bien, pour déguiser une mesure qui, finalement, serait plutôt favorable à l'entrée d'étrangers pour travailler, la déguiser en une mesure qui serait plutôt hostile.
Absolument, c'est de l'habillage. Mais c'est ce que je disais, c'est comme Macron est un peu coincé en étant, au fond, ni droite ni gauche. Donc, droite, ça va être le côté libéral, donc c'est la mesure qui est concrètement prise. Et puis, gauche, ben, il faut dire qu'on n'ouvre pas trop, etc. Et à ce moment-là, on appelle ça quota, mais ça n'a rien à voir avec des quotas. Ou alors, il est question, ça pourrait avoir un sens, il est question de compter les demandes par profession ou par métier.
Mais alors, est-ce que c'est si simple? Parce que donc sur le papier, on voit très bien ce qu'est une profession en tension. Dans les faits et surtout dans l'évolution, parce que le marché du travail n'est pas un lieu stable et il y a quand même des dynamiques, est-ce que c'est aussi simple que cela, Hervé Lebras?
Non, il faut considérer d'ailleurs deux choses. Il y a deux types d'immigration qui sont demandés pour l'économie. C'est des métiers très peu qualifiés, mais dangereux, ou bien avec des contraintes fortes, notamment dans l'hôtellerie, dans la restauration. Et puis, des métiers de pointe. Pour les métiers de pointe, les quotas n'ont pas de sens. La technique qui avait été mise au point au Canada d'avoir un nombre de postes fixés par province canadienne et par profession a été un échec parce que les personne entre au titre d'une profession et d'une région et quelques mois après on les trouve dans une autre province et dans une autre profession. Il y a une liberté. Il faudrait pour que ça marche qu'on soit vraiment dans un gouvernement ultra-étatique où la personne qui est engagée au titre d'une profession et d'une province on la suive et elle soit effectivement tous les jours on vérifie qu'elle reste bien dans le poste pour lequel elle était engagée.
Je vais vous faire écouter Hervé Lebras. Laurent Berger, il était au micro de France Inter et il s'exprimait, donc le secrétaire général de la CFDT, sur la question des quotas et de l'immigration.
Je ne crois pas qu'il y ait besoin de ça. C'est déjà le cas entre nous. Il suffit d'aller dans un certain nombre de restaurants, dans un certain nombre de secteurs. Vous savez, nous, on tient des permanences dans nos unions locales, des permanences de droit pour les travailleurs. Quand vous faites une permanence spécifiquement sur les métiers du bâtiment, de la restauration, etc., vous apercevez que les personnes qui occupent ces emplois, pour une part non négligeable, sont des personnes issues de l'immigration récente. Le débat aujourd'hui sur l'immigration, je le trouve choquant, ouais. Je trouve que remettre le couvert, comme on dit, sur ce sujet-là de la part du gouvernement, c'était pas nécessaire.
Bon, c'est un point de vue de Laurent Berger. Votre réaction à ce point de vue, on a la sensation que, dit Laurent Berger, on a affaire à une mesure qui finalement est redondante par rapport à des pratiques ou à une réalité qui est déjà très largement établie.
Non, Laurent Berger a raison de dire que dans un certain nombre de métiers, il y a une proportion, des métiers souvent durs, il y a une proportion importante d'immigrés, mais c'est en général des immigrés qui sont arrivés légalement. Par exemple, quand un immigré arrive au titre du regroupement familial, il reste pas sans rien faire. Il va entrer dans un... Il va chercher un poste, et souvent, ce sera des postes comme ceux dont parle Laurent Berger. Le problème, au fond, que Laurent Berger n'a pas abordé, c'est il y a un manque de postes dans certains de ces métiers. Donc, comment faire? Et c'est ce la réponse que tente d'apporter le gouvernement, qui est une classique réponse libérale, c'est-à-dire qu'on fait appel à des travailleurs étrangers, ce que dans l'histoire de France et des autres pays développés, on a toujours fait.
Hervé Lebras, si on essaye de faire un peu d'arithmétique, de démographie, c'est votre métier, de distinguer les entrées irrégulières des entrées régulières. Alors commençons tout d'abord par les entrées irrégulières. Est-ce qu'on est capable de les chiffrer? Est-ce qu'on a des fourchettes? Et puis comment fait-on d'ailleurs?
Oui, alors les entrées irrégulières, on a des fourchettes sur lesquelles il y a, je crois, un certain accord en France. Alors, je dirais pas les entrées irrégulières, c'est quelle est la population des sans-papiers en France. On pense qu'elle est entre 200 000 et 400 000. On donne ce chiffre à partir des dossiers de l'AME, l'aide médicale aux étrangers, qui sont...
On en reparlera de l'AME.
Qui sont un peu plus de 300 000, sur le fait que quand il y a eu les deux régularisations qui ont eu lieu, ont attiré assez peu de monde, moins de 200 000 personnes, chacune d'entre elles. Et puis sur le fait que les régularisations annuelles, c'est à peu près 30 000 personnes depuis une dizaine, même une quinzaine d'années. Et ces 30 000 personnes, quand on regarde la durée de séjour en France, c'est à peu près 10 ans, donc 10 par 30 000. On arrive aussi à 300 000, donc on est autour de ce chiffre-là. Qui sont ces gens? Et on y reviendra peut-être, c'est pour beaucoup des refusés du droit d'asile. Et là, on tombe sur un vrai problème de migration. Je ne sais pas s'il sera abordé dans les autres mesures, mais je n'en entends pas parler actuellement.
Quel est ce problème,
Hervé? Le problème, c'est que près de 70% des personnes qui soumettent leur demande à l'OFPRA, l'Office pour les réfugiés, voient leur dossier refusé. Donc dans ce cas-là, elles reçoivent un ordre de quitter le territoire, mais très peu d'entre elles quittent le territoire parce que elles ont été demandeurs d'asile pendant 12, 18 mois, 24 mois. Donc elles se sont installées en France et c'est très difficile de leur faire quitter le territoire. Or c'est un vrai problème puisque l'asile et notamment le traitement de l'asile par cet office l'OFPRA n'a de sens que si on retient les demandeurs acceptés et puis qu'on renvoie ceux dont le dossier n'a pas été accepté. C'est ça qui fournit une grande partie de la migration irrégulière en France.
Mais alors, il y a une chose qui est certaine, c'est que si on reprend l'histoire de l'immigration, mettons depuis les années 50, Hervé Lebras, il y a eu un pic très important d'immigration dans les années 50 à 75, où là on voit une augmentation significative, puis une décrue. Aujourd'hui, on assiste à une augmentation significative des demandes d'asile.
Oui, alors il y a eu, c'est-à-dire la partie travail a été très forte jusqu'en 1975 à peu près.
Voilà, on est aux alentours de 180 000 entrées par an.
Net. Et puis maintenant, on a oscillé autour de 25 à 30 000. Mais c'est la partie travail. Il faut pas oublier que la grosse part de l'immigration actuellement, sur les 260 000 cartes de séjour, c'est à peu près 80 000 pour leur groupement familial et 80 000 pour les étudiants. Donc le travail, c'est très peu. Et puis, il y a les demandes d'asile.
Alors les demandes d'asile, elles sont en augmentation significative. On est passé, disons, d'environ 40 000
un peu plus,
par an à 120 000 aujourd'hui. Donc, effectivement, il y a une augmentation significative des demandes d'asile.
Oui, absolument. Elle a coïncidé avec le début de la crise syrienne. Dans les années 2010 à 2015, c'était 60 000 demandes par an. On est passé, y compris les demandes de réexamen, on est à peu près 120 000 l'année dernière. Il faut voir que c'est d'abord beaucoup moins que ce qui s'est produit en Allemagne. On a presque atteint le million de demandes il y a deux ans. Mais il faut voir aussi que on a une sorte de retard. C'est-à-dire que parmi ces 120 000 demandes actuelles, à peu près le tiers, même un peu plus du tiers, c'est des personnes dont le droit d'asile a été refusé en Allemagne, en Suède ou au Danemark. Donc on arrive à un paradoxe qu'on a des Afghans qui sont la première demande d'asile en France, qui parlent bien allemand parce que pendant plus d'un an, ils ont appris l'allemand au cours de leur demande d'asile. Donc il y a vraiment un problème européen que quand un demandeur d'asile est refusé dans un pays, bon, il peut redemander l'asile dans un autre pays avec 28 pays, il peut rester toute sa vie à demander l'asile.
Mais alors, est-ce que ça veut dire, Hervé Lebras, qu'il y a effectivement aujourd'hui un afflux d'étrangers sur le territoire, quelle que soit la cause de leur présence, et que cet afflux requiert, comme semble le dire le gouvernement, une politique spécifique liée donc à ce nombre particulièrement important?
Non, parce que l'afflux, si on regarde la migration dite régulière, on l'a dit tout à l'heure, c'est 260 000 cartes de séjour. Alors, comme il y a des régularisations, disons que c'est à peu près 230 000 personnes qui arrivent chaque année. D'abord, il y a beaucoup de personnes qui repartent. Il faut aussi en tenir compte. Et ensuite, quand on regarde les demandes d'asile, le fait qu'elles soient passées de 60 000 à 120 000, ça fait 60 000 de plus. C'est peu de choses par rapport à ces 240 000 ou 260 000. Et quand on regarde dans le détail, c'est quand même assez étrange parce que les pays qui ont vraiment besoin de, où c'est très clair, c'est que la demande d'asile est justifiée, c'est-à-dire Afghanistan par exemple ou Soudan, sont assez peu nombreux, et c'est ça le problème qui a été soulevé. Mais c'est pour peu de personnes, c'est que dans la liste des demandeurs d'asile, en troisième et quatrième position l'année dernière, c'est des Géorgiens et des Albanais, mais ça représente au total 11 000 personnes. Donc on tombe quand même sur des petits effectifs.
Bon, alors on continue dans ce registre. Là, si on parle de la théorie du grand remplacement qui est de plus en plus populaire aujourd'hui en France à l'extrême droite, à laquelle d'ailleurs France Culture consacre un podcast, La mécanique du complotisme, un podcast que vous pouvez donc télécharger sur le site de France Culture. Cette théorie, elle repose sur deux chiffres principaux. Elle explique qu'il y a un résultat net de la politique de migration d'environ 190 000 étrangers qui arrivent donc en France, et puis il y a une diminution de 130 000 Français chaque année. Et donc si on continue comme ça, dans un temps relativement lointain, Hervé Lebras, il n'y aura plus de Français.
Alors, deux choses. Effectivement, si être français et être étranger est une chose absolument irrévocable et qui se reproduit de génération en génération et qui ne se mêle pas, mais ce qui se passe en France, c'est d'abord que une grande partie des personnes qui s'installent acquièrent la nationalité française. Sur les immigrés en France actuellement, 40% d'entre eux ont la nationalité française. C'est des Français comme vous et moi, et parfois je trouve choquant qu'on les traite d'immigrés d'un point de vue politique, ils sont nos égaux. Et puis surtout, l'argument important, c'est qu'il y a une mixité très importante des unions en France.
Qu'est-ce que ça veut dire ?
Ça veut dire qu'actuellement, 40% des immigrés qui sont en couple avec un Français ou une Française de naissance. Donc très rapidement, le mélange se produit. Autrement dit, il y a effectivement un grand remplacement, mais c'est pas celui d'une population par une autre, c'est celui d'une population qui était assez largement d'origine française sur plusieurs générations, par une population qui est à la fois d'origine française et d'origine d'autres pays, par suite des vagues d'immigration. Je vais juste vous donner un chiffre pour montrer comment les choses se produisent. L'INSEE publie les naissances en France, la proportion de naissances, selon que les parents ou les grands-parents sont immigrés ou non. Il y a 10% des naissances l'année dernière qui étaient des naissances dont les deux parents étaient immigrés, donc vraisemblablement les quatre grands-parents étrangers. Il y a 60% des naissances dont les deux parents et les quatre grands-parents étaient non immigrés. Mais ça veut dire qu'entre les deux, il y a 30% des personnes qui ont des naissances, qui ont au moins un parent ou un grand-parent immigré et un parent ou un grand-parent non immigré. Et si on projette avec le rythme actuel de migration, si on projette d'une génération, ces personnes représenteront 50%. Donc on entre dans une population mixte, mais de la même manière que il y a un siècle, on est entré dans une mixité des Français. Les provinciaux se sont mariés entre eux et ont créé la France telle qu'elle est actuellement.
Dans votre œuvre, vous êtes beaucoup intéressé aux modèles anthropologiques. Les modèles anthropologiques familiaux sont les manières dont les familles s'organisent et les organisations familiales, elles varient selon les pays. La spécificité française dans ces modèles familiaux, est-ce qu'elle est modifiée durablement par l'arrivée d'étrangers ou bien au contraire, avait-elle une propension à accepter une part de gens venus d'ailleurs, Hervé Lebras, historiquement, comment ça s'est passé ?
Bah, historiquement, la tendance a été à adopter non pas ce qu'on pourrait appeler les mœurs françaises anciennes, puisque au nord de la Loire, les mœurs étaient dites de famille nucléaire, c'est-à-dire que les personnes, les foyers étaient uniquement constitués de parents ou de parents et d'enfants. Et puis au sud de la Loire, on avait des familles à trois générations, ce qu'on appelle des familles complexes ou bien des familles souches. Donc ces familles complexes ou souches sont en train de disparaître, restent les familles nucléaires et la plupart des immigrés se sont constitués assez rapidement en famille nucléaire. Il y a une tendance très forte des populations à adopter les mœurs des populations dans lesquelles elles arrivent.
Alors justement, est-ce que c'est... Alors, quantifiable, c'est toujours compliqué, mais lorsque l'on dit finalement, oui, on a affaire à des Français de papier, l'argument avait été opposé aux Juifs au début du XXe siècle. On disait, voilà, en fait, les Juifs ne sont pas réellement Français. D'ailleurs, ils ne sont pas capables d'apprendre racine. Est-ce que il y a aujourd'hui une possibilité de mettre en chiffres l'adoption de formes familiales françaises? Je ne sais pas si ça a un sens pour le démographe.
Si, absolument, parce que il se trouve même que j'y ai travaillé récemment, parce que l'INSEE a des données très intéressantes qui s'appellent les fichiers détails, dans lesquels on a 22 millions de Français et ils sont classés par ménage. Donc on sait qui vit avec qui, si vous voulez. Et donc on sait comment est constitué le ménage. Et quand on regarde les ménages d'immigrés, la distribution des ménages d'immigrés selon le nombre de personnes, selon la forme de le fait qu'il y ait des personnes qui soient, par exemple, des frères ou des sœurs, des membres du couple, ces proportions sont à peu près les mêmes pour les immigrés et pour les étrangers aussi qui vivent en France et pour les Français. La seule différence, c'est que les immigrés ont un peu plus d'enfants que les Français.
Alors, est-ce que ce nombre va diminuer? Parce que là aussi, il y a une question donc de diminution des naissances. Qu'est-ce qu'on observe?
Oui, alors ce qu'on observe, là encore, c'est un beau travail de l'INSEE qui a regardé la fécondité pour les étrangers ou les immigrés qui sont depuis plus de 10 ans en France et depuis moins de 10 ans, les étrangères, puisqu'on mesure la fécondité sur les femmes, à vrai dire. Et à ce moment-là, l'INSEE a montré qu'il y a une baisse assez rapide, il y a une adaptation. Et la différence de fécondité entre étrangers ou immigrés et non-immigrés, c'est assez largement dû au fait que les immigrés sont beaucoup plus dans des professions comme les ouvriers où la fécondité est élevée.
Merci Hervé Lebrun. On se retrouve dans quelques minutes. Vous serez rejoint par Claire Rodier, elle est directrice du GISTI, le groupe d'information et de soutien des immigrés. On continuera d'évoquer ces mesures du gouvernement au sujet de l'immigration. En attendant, il est 8h sur France Culture et je vous souhaite un très bon réveil.
7h-9h, les matins de France Culture, Guillaume Erner.
Et puis, on va faire réagir les invités à votre billet politique, à l'attitude de Marine Le Pen, notamment parce que la question de l'immigration est au cœur de l'actualité. J'ai par exemple sous les yeux le Figaro, immigration. Macron affiche son réalisme, fluidification de l'immigration économique via des quotas, délai d'accès à l'aide médicale. Le président de la République veut mettre à plat la politique française d'immigration. Nous en avons déjà un peu parlé avec Hervé Lebras qui est démographe et nous recevons la présidente du GISTI, Claire Rodier. Bonjour Claire Rodier, peut-être une réaction à ce que vient de dire Frédéric Saïs.
Moi j'ai l'impression que le silence de Marine Le Pen, effectivement, il ressemble plus à j'attends et j'engrange. Et si c'est pas pour cette fois-ci, ce sera peut-être pour la prochaine, parce que ce qu'on constate quand même, c'est que depuis, je sais pas, une quarantaine d'années, une cinquantaine d'années, au fur et à mesure que soit la gauche, soit la droite non extrême court après les thèses du Front National avant et du Rassemblement National, aujourd'hui, ça a comme résultat de faire monter l'extrême droite en France. Et c'est vraiment un processus qu'on a vu se développer petit à petit avec un paroxysme à la dernière présidentielle. Et on se dit qu'un jour, ce petit jeu-là va finir par aboutir. Ce sera peut-être pas cette fois-là. Et à mon avis, elle attend. Effectivement, elle n'a pas intérêt à parler. De toute façon, dès qu'elle parle, c'est quand même une catastrophe. Il vaut mieux laisser parler les autres pour alimenter son petit jardin.
Alors, juste pour clore ce commentaire politique, Hervé Lebras, il y a eu un sondage ce week-end qui a été notamment publié dans le JDD où il y avait une hypothèse de second tour, Emmanuel Macron et Marine Le Pen, et Emmanuel Macron remportait 55% des voix, ce qui veut dire que Marine Le Pen en remportait 45%. C'est un élément nouveau, disons.
Oui, c'est nouveau puisque les sondages avant que Marine Le Pen fasse ses grosses gaffes dans le débat de l'entre-deux-tours en 2017, donnait 60-40, donc elle aurait gagné 5 points. Je pense que ce que disait Claire Rodier, c'est à force d'aller sur les thèmes du Front National, on le renforce sans doute. Ce qui dit, faut pas non plus tomber dans les extrêmes. D'abord, c'est un sondage. Rappelez-vous que pour les dernières européennes, on pensait que le candidat Bellamy, dans les derniers sondages, était à 14%, il a fait 8%. Et jusqu'ici, les instituts de sondage m'ont pas expliqué le raison de cette erreur. Donc c'est un premier point. Le second point est que, quand on regarde sur le long terme, la progression du Front National, il faut quand même être réaliste. Elle n'a pas été si rapide. Le Pen perd en 2002, avec Maigret, fait 19% au premier tour. Marine, en 2017, donc 15 ans plus tard, fait 21,5%. C'est bon, bien sûr, c'est 2,5 de mieux. Donc il faut attendre la réalité des choses. Je me méfie beaucoup de ce type de sondage les élections.
Dernière chose, Hervé Lebras, il y a un chiffre qui m'a surpris, un report des voix venu de la France insoumise sur Marine Le Pen à 63%, toujours si on en croit ce sondage publié dans le JDD. Votre point de vue ?
Là, c'est assez étonnant quand on connaît à la fois la carte électorale et les résultats précédents, puisque on sait que c'est une faible proportion, j'ai plus le chiffre exact, mais je crois que c'est 15% des électeurs de Mélenchon à la présidentielle, au second tour, avaient voté pour le RN. D'autre part, la clientèle de la France insoumise n'est pas du tout située dans les mêmes régions, ni même d'ailleurs dans les mêmes professions que la clientèle du Front National. Donc là, il est possible qu'une chose importante soit en train de se passer si ce chiffre est vérifié, mais il faudrait quand même qu'il soit vérifié. On peut penser qu'il y a une certaine possibilité avec ce qui se passe en Allemagne, où en Allemagne, la Die Linke, qui est l'équivalent de la France insoumise, est en train d'être dépecée par l'AfD. Mais parce qu'en Allemagne, Die Linke et l'AfD, c'est l'Allemagne de l'Est très largement. Donc c'est là, cette fois-là, la même clientèle. France, c'est pas la même clientèle. Donc faut attendre d'autres sondages pour se prononcer.
On referme la page politique et on ouvre la question sociale, la question de l'immigration avec donc ces mesures annoncées par le gouvernement. Claire Rodier, un point de vue, vous qui êtes directrice du GISTI, que pensez-vous de ces mesures ?
D'abord, je suis juriste et j'ai travaillé avec mes camarades du GISTI pendant l'année 2018 sur une réforme très importante du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le CESEDA, avec pour une loi qui a été adoptée en septembre 2018. Et c'est quand même assez surprenant que moins d'un an après, on ait des annonces d'un débat qui va discuter d'une nouvelle réforme de la loi sur les étrangers. On est habitué dans ce domaine à ce qu'il y ait une loi par ministre de l'Intérieur, voire deux, mais à ce rythme, cette nécessité tout à coup de réformer est très étrange et s'inscrit, de notre point de vue, naturellement dans un contexte préélectoral qu'on avait déjà senti d'ailleurs dans les annonces de Macron dans son discours de décembre 2018, au moment des Gilets jaunes, quoi, de caser la question de l'immigration comme un sujet important. Voilà, c'est important. J'en reviens à ce que je disais tout à l'heure. On va sur le terrain du Front National pour sensibiliser une partie de l'opinion à des thèses sur une base qui est quand même assez, franchement, d'abord de la poudre aux yeux.
Pourquoi de la poudre aux yeux ?
Les annonces qui ont été faites. Je crois qu'on a parlé des quotas tout à l'heure avec Hervé Lebras. J'y reviendrai pas, mais
votre point de vue sur les quotas, parce que donc Hervé Lebras a expliqué qu'en fait c'était une manière d'habiller et de manière de pure communication politique, une manière d'habiller des mesures libérales en mesures répressives.
Oui, c'est une utilisation absurde d'un mot qui n'a pas de sens, mais qui est fait pour flatter une partie de l'électorat, peut-être l'électeur du Figaro qui fait son gros titre aujourd'hui, etc. Voilà, bien sûr.
Ça, je ne sais pas, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que le Figaro approuve ces mesures, tandis que Libération y est plutôt hostile.
Et sur l'autre gros morceau qu'on nous annonce, mais il y en aura d'autres, on a parlé du regroupement familial, normalement, monsieur Philippe doit annoncer 20 mesures. On ne connaît pas encore toutes les 20 mesures. On a entendu quelques-unes. L'autre gros morceau qui a déjà été largement commenté, c'est la question de l'aide médicale de l'État. Ça consisterait à établir un délai de carence pour rendre impossible l'accès à cette aide avant 3 mois pour les personnes qui viennent d'arriver sur le territoire.
Alors il y a l'AME et
ça c'est pour la
le PUMA.
Pour le PUMA, oui.
Le
oui.
PUMA qui, expliquez-nous en
protection universelle pour maladie et qui dont la réforme, donc c'est là-dessus, excusez-moi, que il est prévu d'établir un délai de carence qui concerne essentiellement la réforme annoncée, la lutte contre les demandeurs d'asile qui abuseraient de cette aide et qui viendraient dans une sorte de tourisme sanitaire se faire soigner en France pour soigner en France et bénéficier du système français de protection.
Alors, il y a eu des reportages. Le tourisme sanitaire existe, Claire Rodier ?
Il existe, mais il existe de façon très marginale par rapport à la réalité des besoins de la population principalement visée par cette réforme, par cette menace de réforme. C'est notamment une très grande partie des demandeurs d'asile qui se trouvent à la rue du fait des carences du système d'accueil et d'hébergement des demandeurs d'asile en France. Des personnes qui ne sont parfois même pas encore demandeuses d'asile parce qu'elles n'ont pas pu déposer de dossier. Donc on a dans cette population qui habite les campements, qui habite dans des conditions extrêmement précaires, donc les gens les plus vulnérables, ceux que rencontrent notamment les permanences des associations comme Médecins du Monde très régulièrement et qui est privé déjà de soins tout simplement par non possibilité d'accès à ce qui est un droit.
Est-ce que ça coûte cher
en France? Ça coûte cher, ça coûte, c'est pas énorme par rapport à la dépense de santé nationale, c'est même très peu. Et quand on parle de fraude, il faut regarder les chiffres donnés par la CNAM elle-même. Les cas avérés de fraude en 2017-2018 ne dépassaient pas 50.
50
c'est... Oui, 50.
Très peu, parce que il y a eu des reportages qui expliquaient qu'il y avait malgré tout plus de personnes qui venaient se faire fraude.
Il y a énormément de fantasmes, mais il y a beaucoup d'intoxication sur le poids écrasant que représenterait cette AME et le PUMa dans les dépenses de l'assurance maladie en France. Mais en fait, c'est tout à fait, les chiffres sont tout à fait dérisoires au regard d'un principe qui, en revanche, lui, est important et qui commence à être battu en brèche. C'est un principe de santé publique. C'est-à-dire que ne pas soigner des gens, ne pas pouvoir se soigner quand on est dans un campement, quand on est dans un logement précaire, parce qu'on n'a pas accès aux soins, c'est représenter un danger pour la santé publique, notamment du fait des pathologies contagieuses, etc. Puis il y a quelque chose, il y a aussi des choses qui n'ont pas été dites. Il y a un rapport qui va sortir ou qui est sorti déjà. De l'IGAS qui a été commandé par le gouvernement sur l'aide médicale de l'État, et il y a des chiffres qui sont pas donnés dans le bilan, c'est notamment la proportion des enfants pris en charge dans le cadre de l'aide médicale de
c'est-à-dire,
l'État.
Expliquez-nous.
C'est les enfants, ça représente un peu plus de 20% des personnes qui sont prises en charge dans le cadre de l'AME. Donc réduire le panier de soins, réduire l'accès aux soins pour cette population-là, globalement, au nom de la fraude, ça veut dire aussi priver des enfants, risquer de priver des enfants de soins, alors que, pour le coup, l'obligation pour la France, en référence à la Convention internationale sur les droits de l'enfant ou à la Convention européenne des droits de l'homme, l'obligation de prendre en charge les enfants est absolument indérogeable.
Parce que si on reprend donc ce rapport de l'AME, alors effectivement, l'IGAS considère qu'il y a peu de fraude, il y a quand même une augmentation des coûts de l'AME de 1,4% par an.
Mais elle est corrélée à l'augmentation moyenne du coût hospitalier. Hein. L'augmentation n'est pas si énorme que ça. Et d'ailleurs, je crois qu'elle a même baissé entre 2017 et 2018. Le nombre de bénéficiaires de l'AME a baissé entre 2017 et 2018. Pas énormément, mais en tout cas, c'est le budget global. Le budget global de l'AME au sein de l'assurance maladie, c'est à peu près 0,5%. C'est une proportion tout à fait stable depuis des années. Hein.
Alors,
il n'y a pas d'augmentation, il n'y a pas d'explosion.
Il y a quand même une suspicion, je lis le rapport de l'IGAS, une suspicion de migration pour soins pour 43% des patients AME en dialyse et 25% des patients AME en chimiothérapie oncologique.
Alors ces chiffres sont pas corroborés, on verra. Hein. J'ai découvert le rapport, je l'ai lu il y a très peu de temps, confirmé par les associations qui travaillent sur la santé des précaires. Donc on verra ce qu'elles disent. Ce qu'elles disent ces associations, et je crois que ça c'est très important, c'est que il y a beaucoup plus que la fraude, le phénomène qu'il y a identifié à propos de l'AME, c'est les difficultés d'accès, le non-recours à ce qui est un droit.
Alors le non-recours, il faut expliquer.
Le fait de ne pas demander quelque chose auquel on a droit, le renoncement, c'est-à-dire ça c'est le fait d'essayer de demander quelque chose auquel on a droit et de ne pas y parvenir. Dans ces permanences, Médecins du Monde reçoit 80% de la population de Médecins du Monde reçue par Médecins du Monde serait éligible à l'AME et ne la perçoit pas. Donc on est bien loin du schéma de la fraude et de l'attractivité du tourisme médical. Voilà, ça c'est des proportions très marginales. Il y a cette fameuse filière des Géorgiens dont on parle, les demandeurs d'asile géorgien qui viendrait pour se soigner exclusivement et non pas pour demander une protection comme le prévoit le droit d'asile. Mais tout ceci est très marginal par rapport au nombre de gens qui doivent être soignés, qui ont besoin d'être soignés, notamment les enfants, et au nombre de gens qui ne parviennent pas à obtenir les droits que la France prévoit encore aujourd'hui pour eux.
Votre point de vue, Hervé Lebras.
Oui, ça, je suis moins spécialiste de ces questions que Claire, mais très clairement, ça paraît une mesure de toute manière maladroite, parce que si un immigré ou un demandeur d'asile a besoin de soins, c'est surtout dans les 3 premiers mois où il arrive. Il a souvent eu un parcours long et difficile pour entrer en France. Donc c'est à ce moment-là, son état de santé est souvent assez mauvais. À la limite, si vraiment le gouvernement voulait agir dans ce sens-là, il faudrait plutôt ôter 3 mois une fois que la personne est là en France depuis une année. Ça serait plus raisonnable.
Mais Claire Audier, par ailleurs, vous qui avez une connaissance concrète de la manière dont ces personnes étrangères, sans papier, demandeurs d'asile, sont accueillies, qu'est-ce qui va se passer si on a affaire à des gens qui sont malades sur le territoire pendant ces 3 mois?
Voilà, c'est qu'ils vont développer des pathologies qui vont coûter beaucoup plus cher à la France, soit pour les soigner eux, soit pour soigner les gens qu'ils auront.
En dehors du coût, voilà, j'imagine que vous ne pensez pas qu'au coût, mais on va se retrouver.
Mais on est déjà dans des situations parfois dramatiques et notamment dans un aspect dont on n'a pas du tout parlé aujourd'hui, mais c'est les maladies psychiatriques, hein, les pathologies psychiatriques liées à la précarité de la vie de personnes qui arrivent après un parcours parfois très très long, très difficile, enfin on va pas reparler de la Méditerranée, des prisons en Libye, etc., qui arrivent en France pour aller dormir à la porte de la chapelle ou au bord d'un périphérique et qui sont pas prises en charge. Oui, il y a un problème non seulement de santé publique, mais un problème humain qui est tout à fait terrifiant quand on pense aux moyens dont disposerait la France pour accueillir correctement, et elle le peut largement, les personnes qui arrivent aujourd'hui sur son territoire. Je crois qu'on en a parlé tout à l'heure. Malgré les annonces qui ont été faites, notamment par Emmanuel Macron au mois de septembre, la France est très très mal placée dans la hiérarchie des pays qui accueillent les demandeurs d'asile. Donc on n'est pas du tout dans un système de saturation, on est dans un système de précarité organisée, des retraites structurelles et qui va du logement à la prise en charge juridique, à l'accès aux soins. Je parle de la prise en charge juridique parce que
pourquoi ça ?
Aujourd'hui,
parce que,
pour demander l'asile, par exemple, il faut passer par une plateforme par téléphone qui est inaccessible. Et donc, vous avez quelqu'un qui est arrivé il y a un mois et qui peut très bien être là depuis un mois sans avoir été enregistré. Donc, les 3 mois qu'on veut lui imposer, le fameux délai de carence, en réalité, ils vont peut-être en plus augmenter du fait de l'impossibilité d'accès aux services qui va lui permettre d'enregistrer sa demande d'asile.
Alors, le gouvernement insiste en disant on va faire en sorte que tout cela soit plus efficace, c'est vrai ou c'est faux?
Bah écoutez, le seul truc que j'ai entendu, c'est on va renforcer les moyens de l'OFPRA, l'Office français pour la protection des réfugiés et des apatrides, et de la Cour nationale du droit d'asile, pour réduire à 6 mois le délai d'attente des demandeurs d'asile. Mais outre que c'est un discours que j'entends, il est vrai, je suis pas toute jeune, mais depuis près de 30 ans, il faut réduire à 6 mois le délai d'instruction de la demande d'asile, c'est un discours qui est... peut-être irréaliste et de toute façon très inapproprié à la question de la demande d'asile, parce que la question de la demande d'asile, elle n'est pas une histoire de temps. Il faut réfléchir à ce dont ont besoin les demandeurs d'asile et pas réfléchir en termes économiques. Mais par ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, toutes les mesures qui ont été prises et les augmentations de budget n'ont pas résolu le problème, et on est bien confronté à une situation où des gens vont attendre parfois un an et demi avant de pouvoir voir instruit de leur demande d'asile, mais où en amont, c'est ce que j'essayais d'expliquer tout à l'heure, il leur est même imposé plusieurs mois d'attente avant de pouvoir faire enregistrer leur demande d'asile, ce qui est une mesure qui n'est pas législative, qui est une pratique administrative de dissuasion. Et ce qu'il faut voir, c'est que la France est dans une perspective de dissuader de la demande d'asile par tous les moyens.
Chose pour les cartes de séjour.
Même chose pour les cartes de séjour, avec la dématérialisation des services d'accès à la prise de rendez-vous, où on a des gens qui vont perdre leur droit au séjour simplement du fait de l'impossibilité de prendre à temps un rendez-vous. Donc on a des gens qui sont plongés dans la clandestinité par l'administration française. Et des gens qui sont plongés dans la précarité, éventuellement dans la maladie, parce qu'ils ne sont pas accueillis en tant que demandeurs d'asile. Et vous savez, ce processus de dissuasion ne se limite pas finalement à des mesures administratives où on pourrait penser à des dysfonctionnements. On est bien dans un dans un processus très global qui commence finalement en Libye, qui commence quand la France refuse d'accueillir des réfugiés qui ont été récupérés par un bateau humanitaire en Méditerranée, qui commence quand la France va donner en cadeau aux gardes-côtes libyens des zodiaques pour les aider à mieux empêcher les personnes de quitter, les personnes en besoin de protection de quitter les côtes libyennes. Ce processus de dissuasion, il commence très en amont et on le voit à l'œuvre dans les mesures qui nous sont annoncées aujourd'hui.
Alors, il est toujours compliqué de savoir si ces délais qui s'allongent sont liés tout simplement à une action délibérée. Finalement, on est satisfait que ces délais s'allongent parce qu'il peut y avoir un effet désincitatif ou bien s'il s'agit uniquement d'un manque de moyens général. Mais en tout cas, Hervé Lebras, ça s'articule avec l'idée qu'à l'avenir, il y aura de plus en plus de migrations et que nous devons faire face à une vague de demandeurs d'asile, de demandeurs d'asile climatique, de demandeurs d'asile notamment venus d'Afrique. Vous qui avez fait une note pour la Fondation Jean Jaurès, qu'est-ce que l'on peut dire sur l'avenir des migrations ?
Bien sûr, c'est très difficile, mais dans cette note, et d'ailleurs il y aura aussi 4 pages sur ce sujet dans le prochain numéro du Nouvel Obs, la seule base qu'on est actuellement, c'est le travail des Nations Unies, puisque le chiffre de prévision de population, de projection, comme on dit, sont élaborés par un organisme des Nations Unies qui s'appelle la Division de la Population. Et quand on regarde de près les données pays par pays, puisque cet organisme prévoit jusqu'en 2100 la population, donc pour le pays par pays, il faut prévoir les migrations, ou du moins le solde migratoire, les Nations Unies prévoient une stabilisation de ce solde jusqu'en 2050 et une diminution arrivée en 2100. Et il y a là-dedans des arguments forts, notamment le fait que les migrations actuelles, les soldes migratoires actuels, sont beaucoup plus faibles que ce qu'ils étaient il y a un siècle, mettons, quand les Européens partaient pour les États-Unis, par exemple, et sont aussi plus faibles que ce qu'ils étaient dans l'immédiate après-guerre. Donc, il n'est pas du tout sûr que les migrations augmentent. Quant au fantasme africain qui a été développé par un livre du journaliste Stephen Smith,
que nous avons reçu ici,
que vous avez reçu peut-être, et qui a été recommandé par Macron d'ailleurs à l'ensemble, qui a été distribué je crois à l'Élysée, à l'ensemble des conseillers. Ce livre part du constat que, sous prétexte que la population africaine doublera, elle va se ruer, c'est le mot qui est employé, sur l'Europe et particulièrement sur la France. C'est complètement contraire à ce qui se passe depuis 20 ans. Je donne dans ma note.
Le livre était un peu plus compliqué.
Non, il y avait une chose d'intéressante dans le livre, qui était de dire les migrations peuvent augmenter parce que les personnes sont plus cultivées, sont plus éduquées. Et effectivement, c'est beaucoup plus facile de migrer quand on a un diplôme, et la proportion de migrants est beaucoup plus importante, la probabilité de migrer est beaucoup plus importante pour les personnes éduquées. Donc là, cet aspect-là du livre était juste.
Par ailleurs, il y avait un certain nombre de chiffres qui étaient tout à fait frappants. Alors, ils étaient peut-être inexacts, mais en l'occurrence, je ne sais pas s'ils ont été critiqués. Je n'ai pas la sensation qu'il ait été entre la croissance de la population et les sommes requises pour augmenter les infrastructures. Il y avait par exemple l'exemple du Nigeria qui était assez frappant.
Oui, alors là, on entre dans d'autres questions, mais je voudrais juste, pas sur le Nigeria, mais sur le Niger, donner un chiffre qui est dans mon petit rapport. Au cours des 5 dernières années, la population du Niger, capitale Niamey, a augmenté de 4 millions de personnes. Et la migration nigérienne en France, au cours de le solde, au cours de ces donc dernières années, a été de 2 500 personnes. Voilà l'ordre de grandeur. Donc l'idée que le nombre gouverne la migration est une idée fausse. Ce qui gouverne la migration, c'est des filières. Par exemple, les Maliens sont plus nombreux parce qu'il y a des filières qui remontent à près d'un siècle d'engagement de Maliens dans un certain nombre de métiers.
Claire Rodier, nous avons donc évoqué ces mesures du gouvernement et j'imagine que vous avez eu des contacts, des conversations avec des membres du gouvernement lorsqu'il s'est agi de réfléchir à ces mesures.
Sûrement pas.
On ne vous consulte pas.
Non, nous n'avons pas de contact avec les membres du gouvernement pour réfléchir à ces mesures. Le GISTIP produit beaucoup de ressources.
Et elles ne sont pas utilisées par le gouvernement.
Ah, j'espère que si. Je n'ai pas dit ça. Mais ce que nous produisons, ce que nous écrivons sur notre site, toutes les publications que nous diffusons, d'analyse de la législation, des conséquences des lois, etc. Tout ça est probablement utilisé. On n'en sait rien, mais en tout cas,
vous allez peut-être devoir les envoyer. On va vous aider
à cela. Mais on n'a pas de contact direct et pas de concertation. Ça fait longtemps que le GISTI a abandonné l'idée que la concertation avec des responsables politiques pouvait venir des véritables améliorations. Il y a des choses à faire. Il n'est pas forcément utile de discuter. Il nous semble plus intéressant de travailler notamment sur le plan contentieux à faire avancer le droit et faire condamner des pratiques de la préfecture. Vous parliez tout à l'heure de l'impossibilité de la dématérialisation. Voilà, ça c'est
d'allongement des délais complètement fous.
Ce sont des points sur lesquels nous arrivons à obtenir devant le tribunal administratif des condamnations de l'administration, et ça nous semble plus important que d'aller discuter avec un ministre pour lui demander d'accélérer les procédures.